Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invitée est maître Alissa Pélaton. Alissa a la particularité d'être d'origine américaine, mais elle exerce au barreau de Paris depuis 2011 et elle accompagne aujourd'hui les entreprises de l'économie sociale et solidaire dans leurs projets avec le cabinet AMP dont elle est la fondatrice. Un grand merci à sa collaboratrice, maître Claire Gervais, ainsi qu'à Lisa Patrice de m'avoir recommandé Alissa. Merci également à Célia CQRL et à Mathilde RNT pour leurs avis sur Apple Podcasts, qui sont très utiles pour faire connaître Fleur d'Avocat au plus grand nombre et booster la visibilité du podcast. L'occasion de vous rappeler l'air de rien que vous aussi, vous pouvez laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts, ça fait pas de mal. Je vous invite aussi à me recommander des avocats hommes qui auraient quitté la profession d'avocat. C'est le type de profil qu'on me recommande le moins. Et donc, je suis preneuse de vos recommandations pour pouvoir assurer les prochains épisodes de reconversion. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Alissa Pélaton.
Bonjour Lila Louise.
Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat.
Oui, merci à toi.
Alors Alissa, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenue avocate.
Alors c'est une grande question, mais je dirais à la base, je ne voulais pas être avocat. À la base, j'ai prévu d'être anthropologue culturelle, donc j'ai un diplôme en anthropologie culturelle et les études religieuses. Donc soit je voulais être prêtre ou pasteur, et ou soit anthropologue. Et finalement, au fil du temps, j'étais dirigée vers le chemin d'avocat, mais j'avais déjà 28 ans quand je suis devenue avocat aux États-Unis et 30 ans à Paris, pas en France. Donc, et même quand je suis devenue avocat, je me sentais pas comme un avocat classique, dans le sens où quand j'ai travaillé pour les grands cabinets d'avocats anglo-saxons, leurs valeurs, la manière dont ça se passait, c'était pas du tout en cohérence avec mes valeurs à moi, et je trouvais pas du sens dans ce que je faisais. Du coup, j'ai dû créer ma propre voie.
Ah, on va en parler,
dans
on va en parler.
La profession d'avocat.
On va en parler. C'est tout l'objet du podcast. Alors, donc tu dis que au début tu as pensé aux études religieuses pour éventuellement avoir une vie professionnelle comme prêtre, comme pasteur.
Ouais.
De l'anthropologie culturelle.
Oui.
Qu'est-ce qui t'animait là-dedans?
Bah c'est je cherchais du sens en fait. Je voulais être au service des autres et c'était notamment suite à une expérience que j'ai vécue en Kenya en 2001. Donc j'ai fait une année de césure pendant mes études à Berkeley et c'est là où j'ai passé 6 mois avec une association en Kenya en train de faire de l'aide humanitaire. J'avais rien du tout, il y avait même pas de l'eau chaude, il y avait 1 heure d'électricité par jour, on devait faire les courses, se lever à 5h du matin, j'avais 5 chemises et pourtant j'étais le plus heureuse dans ma vie. Et je dis c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui me rend heureuse? Et ce qui m'a rendue vraiment heureuse là-bas, c'est d'abord la communauté. On était 12 personnes de 7 pays différents. C'était d'être au service des autres et aussi d'avoir des vraies valeurs derrière, de vraiment être dans la bienveillance. Donc du coup, j'ai complètement changé de diplôme et c'est là où je me suis dit, je vais devenir anthropologue culturel, je vais vivre avec des tribus, je vais étudier leurs rituels. Ou sinon, je vais justement me plonger dans les valeurs, l'essence un peu de la culture, qui est aussi la religion. Et finalement, quand j'ai travaillé pour plusieurs ONG aux États-Unis, en France, et justement, j'ai essayé de revenir en Afrique, la vie a fait en sorte que je me plaisais pas. Il y avait quelque chose qui manquait, j'étais pas content.
C'était quoi ce qui manquait?
Ben, il manquait, je pense, je sais que c'est bizarre de dire ça, mais c'est le côté pratique. C'est-à-dire, en travaillant pour les ONG, j'apportais de l'aide pour le marketing, pour la levée de fonds, mais c'était pas, je pense qu'il manquait un peu de pratico-pratique, comment je peux aussi avoir de l'argent et utiliser cet argent pour au service des autres, plutôt juste d'être dépendante de l'argent. Et puis, et du coup, j'ai, après avoir travaillé pour les ONG, je voulais avoir des vrais outils que je peux apporter, d'avoir une manière d'aider plus concrètement, je dirais, et même avec de l'argent. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que aussi l'économie, si je veux transformer par exemple l'économie de Kenya, c'est là où j'ai été en Afrique, les moteurs de l'économie, c'est les entreprises. Et donc, je me suis dit, une façon de vraiment transformer l'économie, c'est aussi de transformer les entreprises, de leur donner plus du sens, de leur apporter des valeurs, de leur proposer d'intégrer les valeurs dans leur ADN. Et donc, c'est là où je me suis renseignée sur les entreprises sociales aux États-Unis en 2006. Et c'est exactement ce qui me correspondait, en fait. C'est-à-dire que je peux être efficace, je peux avoir de l'argent, mais en même temps, je peux avoir du sens, je peux avoir des valeurs, je peux aider les personnes, être au service et aussi avoir cette communauté aussi autour de moi.
Et aux États-Unis, du coup, l'expérience au Kenya, c'était une année de césure pendant tes études.
Oui.
Est-ce que ça a été facile d'évoluer depuis ces premières études, ce premier champ d'études, plus dans l'anthropologie culturelle, autour de ces matières-là, vers de l'économie, quelque chose de plus économique et puis ensuite, je devine, de plus juridique. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que...
Pas du tout. Mais j'aime bien le challenge. C'est quand j'ai été diplômée aux États-Unis, c'était 2004, je me suis dit, pourquoi chercher un travail aux États-Unis? C'est trop facile. Je vais chercher un travail en France.
Pourquoi la France?
Oui, parce que j'ai eu une histoire d'amour avec la France, mais pas au sens d'une personne, mais plutôt, j'étais très attirée par la France depuis l'âge de 12 ans. Ma première voyage en France, j'avais 12 ans avec mes parents et j'ai dit à mon père, je me sens comme chez moi ici. C'était un truc qui était plus fort que moi, donc j'ai fait mes études aussi pour étudier la langue française et j'ai fait plusieurs années, notamment en année de césure, de 6 mois Erasmus à Bordeaux. Et donc, je suis arrivée en France pour essayer de trouver un travail. J'ai travaillé pour des musées, des ONG, comme je disais. Ce qui m'a vraiment aidée à trouver ma voie, entre guillemets, de trouver la voie de la profession d'avocat, c'est de parler avec les gens autour de moi, de dire, mais qu'est-ce que vous voyez en moi? Comment vous me voyez? Est-ce que peut-être j'ai perdu un peu le sens, mon boussole intérieure, peut-être il y a un boussole extérieur qui peut m'aider? Et c'est là où les gens me disaient, vous aimez bien argumenter, débattre, vous aimez bien défendre les gens. C'est vrai que j'ai un fibre de l'injustice qui est très forte. Donc j'ai dit, dès qu'il y a de l'injustice, tout de suite, je tourne et j'essaie de régler le problème. Et donc du coup, je me suis dit, je vais essayer la profession d'avocat au cas où, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je peux faire une autre. Et aux États-Unis, c'est plus facile de changer de diplôme ou de métier qu'en France. Donc, quand je suis rentrée aux États-Unis pour faire mes études en droit en 2006, personne n'a rien dit. En gros, on a 3 ans, on a un diplôme et puis on peut être avocat si on passe le barreau après.
D'accord. Et donc, le barreau, ça s'est bien passé. Et quand tu es arrivée en droit, est-ce que ça t'a plu, effectivement? Parce qu'il y a la boussole et ça aide peut-être à tester des choses, mais après, encore faut-il que ça s'avère vrai dans la pratique.
Oui, au début, oui, parce que je suis quelqu'un qui est vraiment motivé, qui, encore une fois, veut le challenge. Donc, j'ai passé le barreau de Californie en 2009, le barreau de Washington DC en 2010 et le barreau de Paris en 2011. Donc, c'était trois années très, très compliquées, mais c'est vrai que j'avais toujours cette motivation un jour de pouvoir utiliser la métier d'avocat au service des autres. Donc c'est ça ce qui m'a vraiment motivée à continuer à persévérer, même quand j'ai échoué les examens, même quand j'ai eu les notes très bas, et quand les professeurs me disaient peut-être il faut arrêter, peut-être il faut pas faire la métier d'avocat et peut-être il faut retourner aux États-Unis justement parce qu'en France c'est compliqué et en plus
c'est quelque chose qu'on t'a dit?
Oui,
les profs en France ont essayé de te dissuader
Parce que j'ai échoué les examens et donc ils me disaient... Bah, et puis en plus, j'ai décidé à la dernière minute, donc j'avais un mois et demi pour étudier plutôt que les 3 mois ou 1 an. Donc j'ai pris ça un peu à la dernière minute. Mais finalement, j'ai réussi et du coup, j'ai commencé en écoutant aux autres, en disant... Bah, pourquoi, pour devenir un avocat avec du succès, pour un vrai avocat, je dois travailler dans des grands cabinets d'avocats anglo-saxons. C'est là, en fait, c'est la voie parfaite où vous êtes vraiment un vrai avocat. Donc, j'ai travaillé dans des grands cabinets, plusieurs grands cabinets d'avocats.
En France.
Tout de suite.
Donc, tu n'as jamais exercé aux États-Unis?
J'ai exercé une année.
Ah, quand même. Mais,
ouais. Avec des stages. Mais c'est vrai que j'ai commencé mon carrière en tant qu'avocat en France. Et puis, au bout de 4-5 ans, en fait, c'est ce que je disais, je me sentais pas du tout comme un avocat classique. C'est-à-dire que bah, le cabinet d'avocats, je dirais pas, c'est pas comme ça pour tous les cabinets d'avocats, mais souvent, les grands cabinets d'avocats, ils sont focalisés sur la rentabilité. Donc, il faut faire des heures bilables, des heures facturées à 2000, 1500 par an. Si vous ne faites pas ça, du coup, on peut vous verrer le jour du lendemain. Donc, tout le monde est en train de tirer la couverture vers eux donc, pour essayer d'avoir ce nombre d'heures. Et ce nombre d'heures représente un montant d'argent qui, finalement, est versé aux associés, au cabinet. Et le modèle économique d'un cabinet d'avocats, c'est maximiser le profit des associés. C'est aussi de travailler pour des entreprises qui veulent maximiser leur profit. Je caractérise un peu, c'est pas du tout comme ça partout, mais... Et c'est cette mentalité qui m'a perturbée parce que je me suis dit, ça n'a aucun sens. À quoi ça sert de devenir plus riche, encore plus riche, alors qu'un jour on va mourir? Et c'est notamment mon associé avec qui je travaille, c'est pas rigolo, mais qui est mort plus tôt qu'il avait 64 ans. Et c'était l'associé. Et juste avant de mourir, il me disait, Alissa, promets-moi que tu ne deviendras pas associé parce que tu vas pas être heureuse. Et moi, je suis associée, je ne suis pas heureuse. Moi, j'aurais préféré travailler en Israël pour aider avec la paix dans le Moyen-Orient. Et quand j'ai entendu ça, je dis, ah oui, d'accord. Donc, on a cet objectif-là en tant qu'avocat, il faut être associé. C'est là, en fait, là, c'est le but, la raison d'être d'un avocat, c'est devenir associé dans un grand cabinet d'avocats. Et tout d'un coup, j'ai eu un choc. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire? Et c'est là où je suis revenue au début. C'était qu'est-ce qui me rend heureuse finalement? Qu'est-ce qui me rend joyeuse? Et c'est là où, en Kenya, justement, c'est aider les autres, être au service des autres, trouver une manière innovante d'aider les entreprises aussi à avoir de la valeur.
Et tu dis que... Donc, ça a duré 4-5 ans dans ce premier cabinet, ton expérience comme avocate dans ce cabinet international anglo-saxon. Et tu dis que tu as eu cette espèce de réalisation un peu tout d'un coup. Donc, pendant ces années, tu étais un petit peu la tête dans le guidon. Ouais, tu travaillais dans quel genre? Tu faisais du droit des affaires, oui. Corporate, M&A. Okay.
Oui, fusion acquisition et ouais. Cross-border transactions, donc aussi droit international. J'ai travaillé un peu dans les projets et aussi en droit environnemental. Mais c'est vrai que justement, je me suis dit, tout le monde est dans ce chemin. Et en plus, quand tu gagnes de l'argent, que tu commences à gagner un peu plus que d'habitude, oui. Et du coup, tu achètes des choses, et tu achètes des belles robes. Et là, du coup, c'est agréable quand même. Mais ce qui était difficile pour moi, c'est que je travaillais jour et nuit. Donc, du coup, je perdais ce lien social avec mes amis, avec ma famille. Et là, on va jusqu'à un très social. Mais au travail, je ne trouvais pas... Enfin, il y avait de l'amitié, c'est sûr. Mais vu qu'on est dans un contexte un peu concurrent, bah ça ne génère pas forcément des amitiés profondes. Et donc, c'est là où je me suis dit, ça ne correspond pas avec ce que moi, j'ai envie d'être. J'ai envie d'avoir une vie sociale. J'ai envie de aussi avoir une vie en dehors du travail. Je ne veux pas que le travail soit... Le tout pour moi, j'ai envie de aussi s'en sentir utile en quelque sorte, d'avoir du sens dans ce que je fais et surtout avec les clients avec qui je travaille.
Mais c'est intéressant parce que tu vois, j'ai eu beaucoup d'interviews sur Fleur d'Avocat où finalement l'évolution a été très progressive. tu vois, une opportunité par-ci qui ouvre une autre porte et qui fait que peut-être qu'à un moment on bifurque. Mais toi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu ce côté, j'étais très dans mon truc et la carrière et les gros dossiers et cette vie à beaucoup travailler et à un peu perdre le lien social avec mes amis, etc. Et puis, il y a ce décès de ton associé, ces quelques mots sur ses regrets personnels et qui te font réfléchir et qui te ramènent finalement à ce qui t'anime, ce qui t'animait quand tu étais plus jeune, quand tu avais l'anthropologie et le service religieux plus en tête. Donc c'est voilà, il y a vraiment ce côté rupture, quoi.
Et moi, souvent, la vie est comme ça pour moi. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu comprends ce mot, mais c'est le bowling par choc. C'est je fonce et hop, je prends une porte, je prends une claque et hop, je fonce de l'autre côté. Et c'est là où j'arrive à finalement trouver mon chemin. Mais là, je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout, qui veut me donner à 100% et vraiment aller d'avoir du succès. Mais en fait, j'ai retravaillé la définition de succès dans ma vie. Donc, c'est pas forcément on gagne plein d'argent ou on travaille pour les plus gros cabinets qu'on a forcément du succès. Pour moi, le succès, c'est être épanouie dans la vie, d'être joyeuse dans la vie, d'être content avec qui je suis déjà, de m'accepter pour qui je suis et d'accepter quelles sont mes valeurs et d'accepter un travail qui correspond à ces valeurs.
Et donc, ce moment de prise de conscience et de prise de recul et du coup, ce moment de pare-choc ou la boule de bowling, quelle a été ta... Donc, tu te dis, OK, en fait, c'est pas ça qui me rend heureuse et j'ai envie d'autre chose. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Oui, alors donc, du coup, comme une grande fille, j'étais complètement perdue. j'ai arrêté. J'ai pris une année où j'étais au chômage et je me suis reposé la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'être avocat?
Qu'est-ce que tu as fait pendant cette année?
Bonne question. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette année? D'ailleurs, la première chose, c'est que j'ai créé un ONG. J'avais déjà créé une ONG avec mon père et d'autres personnes en 2013, justement pour aider des orphelinats, des orphelins en Afrique, notamment au Kenya. Et donc, j'ai créé cette filiale, cette antenne à Paris. Ça m'a donné aussi la chance de travailler sur le sens, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter. Et aussi, j'ai travaillé six mois dans un 440 en disant, si je ne suis pas avocate, je vais travailler en tant que juriste. Du coup, j'aurai peut-être un peu plus de temps pour moi parce que les heures sont plus souples. Et en travaillant pour ce 440, c'était pas du tout ça. Et voilà,
c'était pas du tout ça dans le sens où c'était pas du tout travailler moins, c'était pas du tout.
C'était pas du tout travailler moins et c'était autant de pression qu'avant, voire même plus. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez indépendant et j'avais du mal à travailler pour quelqu'un. J'aimais bien travailler pour moi-même. Je suis assez entrepreneuriale. Donc, j'aimais bien l'idée. J'avais plein de projets à côté. Donc, du coup, je me suis dit, peut-être je vais... J'avais cette idée de créer une plateforme en ligne de crowdfunding. Donc, j'avais pensé à créer une plateforme pour financer des entreprises sociales. J'ai travaillé volontairement pour les incubateurs pour les entreprises sociales parce que du coup, je suis revenue à qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est travailler pour les entreprises qui a du sens. Et à l'époque, c'était en 2013-2014, c'était les entreprises sociales, les entrepreneurs sociaux. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé à trouver ma voie.
Mais donc, tout ça un peu mélangé, c'est-à-dire que donc, tu quittes la... Quels ont été le regard des autres quand tu as quitté la profession la première fois, tu vois, quand tu as quitté ce gros cabinet pour faire le point?
Oui.
Est-ce que... quels ont été, je ne sais pas, tes parents, tes amis, ton mec, tu vois, qu'est-ce qu'ils ont pensé?
Oui, c'est intéressant parce qu'au moment que j'ai quitté le gros cabinet d'avocat, j'ai rencontré mon mari. Donc, du coup, j'étais aussi dans cette période d'être dans la lune de miel, amoureuse. Et lui, il me soutenait tout le long. Il me disait, je te soutiens, même financièrement, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, ça m'a vraiment rassurée. Ma famille, ils ne sont pas du tout avocats. Donc, mon père, il a... Mes grands-parents, ils sont des fermières. C'est un peu comme des paysans. Ils ont travaillé dans une ferme. Mon père a créé son entreprise et finalement, il a beaucoup de succès. Donc, du coup, il a 3 différentes entreprises, il a 150 salariés. Mais ce qu'il a animé, lui, mon père, c'est fais ce que tu as envie de faire, fais ce que ton cœur te dit de faire. Et donc, il m'a inspirée en ça en disant si tu n'as pas envie d'être avocat, c'est pas grave. Mais il me taquinait un peu en disant tu vas avoir combien de diplômes? Parce que là, ça fait déjà beaucoup. Je dis, peut-être je vais devenir médecin. Il dit, encore des études. Je dis, donc, il dit, voilà. Mais il me soutenait, tout le monde me soutenait, sauf moi-même. Moi, je pense que j'étais le plus dur critique parce que je me disais, j'ai échoué. J'ai commencé un chemin, j'ai échoué. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Mais ces questionnements m'ont permis justement de dire non, j'ai envie d'être avocat, mais pas forcément l'avocat classique. Mmh, donc j'ai fait la part de exercer le métier d'avocat et avoir la personnalité d'avocat. Mmh. Je suis pas un avocat dans le sens où j'ai envie de maximiser ma rentabilité, je cherche le titre à tout prix. Enfin, je caractérise aussi, c'est un stéréotype. Je pense que à moi-même et voilà, je veux
c'est
travailler.
C'est fou quand même que ce soit le stéréotype. alors moi, j'ai l'impression qu'avec Fleur d'avocat, j'ai assez peu d'avocats qui sont comme ça finalement. Mais c'est fou que ce soit un stéréotype qui et la vie aussi dure quoi.
Mais moi aussi, je peux pas dire que j'ai enfin. Je vais raconter ça plus tard, mais j'ai créé un réseau d'avocats, notamment avec des valeurs qui cherchent du sens. Donc là, je suis entourée des avocats bienveillants qui cherchent du sens et qui sont adorables. Mais c'est vrai que peut-être c'était mon première expérience dans ce cabinet qui m'a donné cette impression-là. Peut-être aussi c'est moi-même, je ne sais pas pourquoi, je pensais ça.
Non, et puis je pense qu'il faut... D'une certaine manière, il faut être capable de l'entendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pense qu'à la fac, on nous donne beaucoup un monomodèle d'avocat aussi parce que c'est, tu vois, et notamment dans tout un certain nombre de diplômes, c'est les gros cabinets qui sont présents, qui viennent se présenter, qui ont des politiques un peu de recrutement qui font qu'ils se rendent attractifs pour les jeunes. Et puis, on évolue un petit peu avec cette vision-là. Et puis... Ensuite, on rentre dedans et puis, tu vois, quand tu évolues dans un cercle, après, tu rencontres principalement des avocats de cette trempe-là, en tout cas de ce milieu-là, pour qui c'est la définition du succès. Et en fait, il y a une certaine... il faut s'ouvrir au fait qu'il y a d'autres manières d'exercer, d'autres spécialités, d'autres modèles économiques, etc. Donc, il y a un exercice de curiosité d'une certaine façon à faire. Oui. Je suis pas peu fière d'y contribuer avec le podcast, du coup. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et donc tu quittes. Alors, tu as fait ce temps comme juriste. Puis, bon, tu as vite dit que non, c'était pas ce qu'il te fallait. Et ensuite, cette ONG, tu recrées cette antenne française de cette ONG que tu avais déjà créée plus jeune pour... venir en aide aux jeunes enfants, aux orphelinats en Afrique et plus particulièrement au Kenya. Et tu dis, tu te mets à t'intéresser plus particulièrement à l'économie sociale et solidaire à travers notamment une implication dans les incubateurs. Très concrètement, ça s'est fait comment? Est-ce que t'as cherché sur Internet, tu as entendu parler de quelqu'un et tu es y allé. Comment est-ce que ça s'est passé? Si jamais, tu vois, il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent, tiens, comment est-ce que je peux faire pour amorcer un nouveau projet en partant de zéro? Comment est-ce que tu t'y es prise?
Oui, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai regardé en ligne et j'ai trouvé une conférence qui s'appelle Convergence, qui était la plus grande conférence sur l'économie de demain et notamment l'économie sociale et solidaire. Donc, j'ai dit, je vais assister à cette conférence. Je vais me renseigner sur qu'est-ce qui existe, qui sont ces personnes. Et il s'avère que quand je me suis assise pour écouter à un atelier, il y avait quelqu'un à côté de moi qui s'appelle Sébastien. Et donc, du coup, j'ai commencé à parler avec Sébastien. Et Sébastien m'a dit, bah, écoute...
C'est toi qui a dit, hey, Sébastien.
Je ne sais pas, en fait. je ne me rappelle pas. Mais je sais que quand je suis dans une conférence, j'ai envie de parler aux autres parce que c'est un milieu un peu petit. Donc, du coup, quand les autres s'intéressent à l'économie sociale et solidaire, moi aussi, j'ai envie de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils font. Et donc, Sébastien, il me dit, ah, tiens, t'es avocat, entre deux. T'es presque avocat, enfin, t'es au milieu de barreau. T'es avocat, t'es intéressé à l'économie sociale et solidaire, t'as envie d'aider des entreprises. Tiens, j'ai une amie qui s'appelle Alizé. Je vais te présenter Alizé parce qu'elle a créé un incubateur, notamment pour aider les entrepreneurs sociaux. C'est génial. Donc, j'ai rencontré Alizé. Qui est le cofondateur de Make Sense, du coup, qui a créé un incubateur Sense Cube. Et donc, Alizé m'a dit, deviens mentor gratuitement, pour les entrepreneurs sociaux. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler gratuitement pour juste te donner du conseil sur l'agrément, sur agrément pour une entreprise d'insertion, sur la création d'entreprise, ici, par là.
Et sachant que ce n'était pas du tout ce que tu faisais comme avocate dans ton cabinet anglo-saxon.
Non.
Donc, tu t'es auto-formée au sujet pour pouvoir ensuite...
Après, ça se ressemble un peu, c'est-à-dire je travaille avec des entreprises, mais le droit des sociétés, c'est vrai que j'avais une connaissance de base suite à mes études, parce que j'ai été formée en droit international privé, droit européen privé, droit des affaires. Mais ensuite, c'est vrai que j'ai dû m'auto-former, j'ai dû faire des formations, j'ai dû aussi m'intégrer autour des mentors, des gens qui peuvent m'aiguiller, beaucoup d'études aussi, de recherches. Et quand j'ai commencé à travailler pour quelques entrepreneurs sociaux, au bout d'un moment, je commençais à avoir trop de clients, entre guillemets, gratuites, que je me suis dit, il faut que je m'inscrive au barreau, sinon je suis un peu hors règle maintenant. Donc, c'est là où j'ai décidé de me réinscrire et de créer mon cabinet AMP Avocat, qui existe maintenant depuis 5 ans.
Et ça a été quoi de passer de incubateur, mentorat et accompagnement juridique gratuit dans le cadre d'un incubateur à, ok, donc je me réinscris, mais du coup maintenant il faut qu'il y ait une activité économique derrière, parce que quand bien même tu voulais pas forcément atteindre le niveau de rémunération que tu avais quand tu étais en cabinet anglo-saxon, il faut quand même que tu fasses tourner ta structure. Et donc, comment est-ce que tu as fait ce passage de le pro bono vers une activité rémunératrice?
C'était un long travail, c'était pas facile. La première chose, c'est déjà de me dire que je peux le faire. Je pense que la vraie étape pour moi, c'est de me dire, est-ce qu'il y a un vrai besoin? Parce que pour avoir un cabinet d'avocats spécialisé dans l'économie sociale et solidaire. Parce qu'avant, ça n'existait pas. Il y avait des cabinets en droit des associations et fondations, mais pas forcément un cabinet dédié à 100% à l'économie sociale et solidaire, comme moi je le perçois, comme l'économie de demain, avec des sociétés aussi, pas seulement des associations. Et en plus, c'est le pare-choc. autour de moi, j'ai posé des questions à des avocats qui étaient aussi qui s'est déjà lancé dans l'économie sociale et solidaire. Ils m'ont dit, c'est pas la peine, ça marchera pas. Il n'y a pas d'argent parce que les associations déjà, ils n'ont pas d'argent, donc c'est pas la peine. Il ne faut pas créer un cabinet d'avocats. Donc j'avais ces voix-là, j'avais aussi ma voix à moi en disant « je suis une femme, je suis étrangère, qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que j'ai vraiment la légitimité de faire ça ?» Et donc toutes ces voix intérieures et extérieures qui disent « il ne faut pas le faire », je pense que la première étape pour moi, c'est de dire « je peux le faire, je fais confiance dans mon instinct, dans mon intuition, je peux le faire, je vais y arriver ». Et quand j'ai fait cette première part de dire oui, les portes s'ouvrent tout seul. C'est vraiment la chance. J'ai, par exemple, juste au moment que j'ai ouvert mon cabinet, il y avait la loi de 2014 de l'OSS qui est passée. Donc, du coup, tout d'un coup, maintenant, les gens, ils avaient besoin du conseil pour créer leur entreprise dans l'OSS. Avant, ça n'existait pas. Donc, le cadre juridique existait. Puis, il y a la Commission européenne qui m'a contactée via une connaissance pour dire, est-ce que vous pouvez travailler sur une étude sur la France, sur les obstacles juridiques et fiscaux sur les entreprises sociales? J'ai dit oui. Ensuite, il y avait...
Cette connaissance, c'était une connaissance du secteur Make Sense, incubateur, conférence, enfin du réseau, quoi.
Oui, c'était un réseau, mais c'est en Angleterre, c'était une connaissance, Luc, que j'ai rencontré dans une autre conférence quand j'ai intervenu pour parler de les entreprises sociales internationales, parce que j'ai fait une recherche et un article sur cette question-là. Donc,
d'accord, donc tu as écrit un article. Je décortique tout, oui. Parce que le but, c'est que ce soit des leçons de vie qui puissent être reproductibles. Oui. Donc, tu t'intéresses au secteur de l'économie sociale, oui, et solidaire. Tu vas à une conférence sur, oui, le sujet où tu rencontres quelqu'un parce que, ben, aller à une conférence, c'est aussi networker. Donc, du coup, tu t'intéresses aux personnes que tu rencontres et, en l'occurrence, à ton voisin de la chaise d'à côté. Alors, moi, je suis vraiment désolée que tu ne te souviennes pas de ce que tu as dit, parce que je trouve que débarquer dans une conférence et adresser la parole à son voisin, oui, ou à n'importe qui, tu sais, il y a toujours ce moment autour du buffet où, genre, il y a toutes les personnes qui sont venues qui sont seules.
Oui.
Et on se regarde un peu comme ça et personne ose, tu vois, à ce, oui, moment. Et donc, il faut, genre, tu vois, il faut y aller. Donc, bref, j'aurais volontiers pris ton brise-glace préféré. Mais, et donc, lui, il te dit, ah, mais tiens, il y a cet incubateur ou il y a cette association, ils ont un incubateur et du coup, ils pourraient avoir besoin de juristes pour les accompagner. Et puis tu continues tes activités de recherche et d'auto-formation, tu écris des articles, manifestement. Oui. Est-ce que tu avais un blog? Est-ce que c'était...
Oui, en fait, c'est un blog. J'ai créé un site internet en 2009 parce que je me suis intéressée à l'économie sociale et solidaire en 2006 quand j'ai fait mes études aux États-Unis. Donc j'avais une page vraiment basique avec mon nom, avec... quelques articles, un entretien que j'ai fait en essayant de reproduire un peu les plus des matières sur le sujet, parce que c'était un sujet qui était assez nouveau. Enfin, c'est une évolution de l'économie sociale et solidaire. Et il y avait une personne qui m'a contactée par hasard, qui m'a invitée à une conférence à Oxford en 2013. Et j'ai dit, mais comment ça se fait? Il
me... Mais sachant qu'en 2013, tu étais encore dans ton cabinet. Oui. D'accord. Donc, en fait, tout ça, quand même, ça remonte d'un peu plus loin. Et pendant que tu étais collaboratrice dans ce cabinet anglo-saxon, tu l'alimentais, ce blog?
Pas vraiment, non. Pas,
tu l'avais un peu laissé endormi.
Je l'ai laissé de côté. Mais après, ouais, je, de temps en temps, oui. Mais donc, lui m'a invité à cette conférence où j'ai dû intervenir sur le sujet d'entreprise sociale internationale. Donc, je devais être l'expert. J'étais à côté des professeurs de Oxford. Je dis, qu'est-ce que je fais là? Encore une fois, je me retrouve dans des situations où je dis, mais je ne devrais pas être là. Mais pourtant, quand on a vraiment envie on peut suivre les désirs de notre cœur, les portes s'ouvrent finalement. Et donc, c'est dans cette conférence qu'un des autres intervenants, Luc, qui m'a rencontré, qui me disait, bah tiens, j'ai été contactée par la Commission européenne, est-ce que vous voulez pas faire aussi une étude sur la France? Et donc j'ai dit oui, forcément. Mmh. Et c'était aussi le début d'accueillir de l'expérience et de l'expertise sur le sujet. Et Luc et moi et sept autres avocats, grâce à cette étude, on a créé un réseau européen des avocats spécialisés dans le droit de l'OSS qui s'appelle SLA.
Et c'est là.
Ouais, European Social Enterprise Law Association. Et maintenant, ça grandit. On a une trentaine d'avocats, 25 pays différents. Et donc, j'ai intervenu en tant qu'avocat dans une dizaine de pays grâce à ce réseau aussi. Donc, c'est vrai que c'est les rencontres finalement qui font en sorte qu'on puisse continuer sur la voie.
Et donc... tout ça, toutes ces rencontres, elles te permettent de réseauter, elles te permettent d'acquérir en expertise et en visibilité. Mais ça ne résout pas le sujet des clients et tu vois, de ce que disaient les premiers avocats que tu as rencontrés qui disaient « Ah non, mais il n'y a pas d'argent dans ce secteur et les entreprises, elles ne payent pas parce que non, non, non. » Du coup, voilà, encore une fois, est-ce que toi, tu as l'impression que, au sortir de la phase incubateur, tu arrives quand même à avoir des entreprises qui dégagent du budget pour leur accompagnement juridique? Ou est-ce que ton business model, il est plus justement sur la production d'expertise pour des institutions internationales? Enfin, finalement, qui sont tes clients et comment est-ce que tu arrives à vivre de cette économie sociale et solidaire qui est réputée pour finalement n'avoir pas d'argent et tu vois de ne pas être un terrain propice à avoir une activité lucrative qui tient debout.
Oui, c'était je dirais moitié-moitié. Une moitié, la moitié de mon chiffre d'affaires, c'était des clients qui n'avaient pas beaucoup de budget mais qui avaient un peu de budget. Du coup, c'était low bono. Je disais, c'est pas pro bono, c'est pas un grand cabinet d'avocats, mais c'est low bono. Donc, je facturais pas beaucoup. Et puis, il y avait aussi des formations que je donnais à d'autres incubateurs. Donc, maintenant, je suis en contact avec une dizaine d'incubateurs qui me permet justement de rencontrer des porteurs de projets, de leur porter aussi de l'aide gratuitement. Mais en même temps, ça aussi, ça crée un réseau. Et puis là, l'autre moitié de mon temps, c'était...
Et puis, je suppose qu'il y en a quand même quelques-uns qui grandissent assez pour ensuite penser à toi le jour où ils ont du budget. C'est parce vrai. Qu'ils ont grandi, ouais.
Tout à fait, ouais. Bah, et le secteur est en train de grandir en 2014 grâce à cette loi et les entreprises commencent à s'y intéresser parce que la loi de 2014 a ouvert la porte pour que les sociétés commerciales puissent rentrer entre guillemets dans l'économie sociale et solidaire officiellement. Donc c'est vrai que avant c'était plutôt lié, l'ESS était plutôt lié à les associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations, et puis maintenant la loi a créé une définition qui permet des sociétés de rentrer. Donc du coup il y avait des sociétés qui avaient quand même un modèle économique derrière qui peut aussi financer un accompagnement sur l'obtention de l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, donc ou la mention d'entreprise de l'ESS sur leur CABIS. Et donc j'ai commencé petit à petit et puis ensuite je les aidais avec d'autres choses, par exemple des contrats, les CGV, CGU, les propriétés intellectuelles et ça a grandi grâce à ça. Mais c'est vrai, la première année, le chiffre d'affaires c'était rien du tout et mon mari me disait oh, t'es sûre tu veux être avocat, t'es sûre tu veux continuer mais je dis oui, je pense que c'est ça. Donc je dois dire que je ne sais pas si c'est un caractéristique d'un avocat ou si c'est moi, mais souvent je focalise sur ce qui ne va pas pour améliorer, m'améliorer. Et tu dis oui, il y a plein de choses qui se passent, j'ai un chiffre d'affaires de, je sais pas, 5 000 euros, 10 000 euros, c'est génial. Moi, j'étais, ah, c'est pas assez, je ne vais jamais arriver. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure, je devais combattre ces voix en moi en disant, qui me disaient, je ne peux pas réussir, je ne vais pas arriver. Et quand j'ai dit, je peux arriver, je vais arriver, c'est un petit succès, petit pas. Les petits pas amènent vers, du coup, l'objectif. C'est là que j'ai réussi. Maintenant, j'ai embauché pour l'année dernière, notamment Claire, et on est trois au cabinet. Et le réseau Impact Lawyers que j'ai créé avec d'autres avocats en 2018, on est une quinzaine. Donc, ça grandit maintenant et je m'épanouis dans mon travail. Et je me lève avec un sourire, donc je me suis dit, bon, je suis là où je devrais être.
Ben ça, c'est parfait, parce que du coup, tu es parfaitement éligible pour Fleur d'avocat. Mais, et donc, première année, tu disais un chiffre d'affaires terrible.
Oui.
Ouais. Il faut s'accrocher quand c'est le cas.
C'est ça, ouais. C'est là où... Après, heureusement, j'avais un mari qui me soutenait, mais c'est pas facile de commencer, parce que ça prend 3 ans à peu près pour voir si un cabinet d'avocat peut fonctionner. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de formations, donc j'avais beaucoup de temps libre. Et donc, pendant ce temps libre, je commençais à rencontrer des gens, tout simplement. Je commençais à grandir mon réseau. J'ai rencontré plusieurs fonds d'investissement, je suis allée à plusieurs conférences, je me suis occupée pour oublier le fait que je n'avais pas beaucoup de clients. Et c'est là où j'ai commencé à rencontrer des personnes qui m'ont dit « Ah tiens, je connais Alissa ». Et donc du coup, ça a grandi mon réseau et ça m'a permis d'avoir plus de clients, je pense, et aussi de montrer que j'ai une compétence quand même à offrir. Mais c'est vrai que je me sens comme si je suis au service des entrepreneurs sociaux et je travaille maintenant 100% avec des entrepreneurs sociaux ou des entreprises impact. J'ai investi beaucoup aussi au réseau, je ne sais pas si tu connais B Corp, c'est un réseau des sociétés responsables qui veut avoir un impact positif dans le monde. Donc c'est un label ou une certification qui a été créée aux États-Unis en 2008 et qui a commencé en 2015. Donc j'ai travaillé avec eux aussi pour aider ce réseau à grandir. Et maintenant, on a créé l'association Bilab France l'année dernière. Je suis sur le board, le conseil d'administration.
Tellement d'associations. T'as vraiment tout misé. Toi, t'es vraiment une fille de network, quoi. Tu vois.
Peut-être, ouais.
Ouais, t'es vraiment une fille de network, de réseau et de.
Ouais,
mais non,
ça.
Mais c'est bien. Il faut découvrir. C'est comme Adèle Pilote-Babin, que j'ai interviewé récemment, une avocate québécoise. Et elle dit, moi, c'est naturel. Alors, Elle le dit avec son accent québécois, c'est mieux, mais. Mais dis, moi, c'est naturel, j'adore le réseau, j'adore m'impliquer dans les réseaux. Et donc, pour moi, donc c'est intéressant de choper son mode de développement qu'on aime bien et qui, même, il faut savoir que c'est quand même des choses, en général, qui sont un peu à long terme. Enfin, tu vois, c'est pas genre tu rencontres quelqu'un et après-demain, il se passe quelque chose, mais quoique. Mais c'est bien de le savoir parce que toi, manifestement, tu as multiplié les créations de réseaux, d'associations, d'investissements dans différentes organisations. Et ça a bien marché, quoi.
Oui.
Et donc, première année difficile, deuxième année, tu prends espoir, tu te dis, OK.
Oui, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Donc, doublé de zéro, c'est zéro, non. J'exagère, mais non, c'était bien. J'étais vraiment content.
Ouais.
Oui.
Et ensuite, troisième année, tu dis, t'as vu un réel.
Oui.
Un réel changement.
Oui. Oui, j'ai vu un réel changement. Même avec des clients, même dans l'écosystème de l'OSS et aussi dans le cabinet, je commence à prendre mes repères, à avoir confiance en moi. Aussi, je donnais des cours à côté, donc j'ai commencé à donner des cours à la fac en 2008.
On t'a contacté ou c'est toi qui es allé les voir pour leur proposer d'enseigner?
C'est une connaissance.
Mais non, mais le réseau, la force du réseau.
C'est vrai. Donc, du coup, je rencontrais aussi d'autres étudiants et j'ai commencé à enseigner sur ce que c'est l'OSS, le droit de l'OSS, parce qu'il n'y a pas vraiment une spécialité dans le droit de l'OSS, ça n'existait pas. Donc, j'étais vraiment militante pour dire ça existe. Voilà ce que c'est. Voilà le langage à utiliser dans ce milieu parce que c'est un vrai langage différent. Voilà les valeurs de cet écosystème. Voilà les compétences qu'il faut apporter. Donc, quand j'ai commencé à former aussi des étudiants dans les écoles, quand j'ai intervenu, c'est là où je me suis rendu compte aussi que les jeunes étudiants, les jeunes, ils sont vraiment intéressés dans l'OSS. À chaque fois, quand je devais enseigner sur le droit international privé, j'ai essayé d'animer avec une sorte que ça passe, mais quand j'ai commencé à parler de l'OSS et de ce que c'est l'entreprise sociale, tout de suite, leurs yeux brillaient. Ils disaient « Ah, moi, je ne savais pas qu'il y avait une troisième voie pour moi. Tous mes professeurs disaient « Je dois choisir entre droit des affaires ou droit humanitaire, droit des ONG. » Et moi, je voulais faire les deux. Je dis « Oui, il y a une troisième voie. » Et là, tu peux le faire et je veux te soutenir. Donc, c'est vrai que je suis aussi animée par former, par attirer des jeunes dans ce troisième secteur, entre guillemets, qui est une voie qui est peu connue, mais je pense que finalement, suite à cette crise, suite à ce qui se passe dans ce monde, je pense que cette troisième voie va devenir l'économie de demain. En tout cas, j'y crois. Et les jeunes étudiants, même dans le droit, doivent se préparer pour ça.
Mais j'allais te dire, alors du coup, tu m'arrêtes si c'est trop, si j'abuse, mais j'allais te dire, qu'est-ce qui fait que Fleur d'Avocat, par exemple, pourrait être une entreprise sociale et solidaire ? Parce que moi, comme entreprise, alors j'ai le podcast qui n'est pas à but lucratif, parce qu'il n'est pas sponsorisé et ce n'est pas un exercice de communication parce que tu ne me payes pas pour être sur le podcast. Et donc, mon chiffre d'affaires, il est dégagé, en tout cas pour le moment, par la formation, une activité de formation.
Oui.
Et moi, j'ai l'impression de faire quelque chose de très social et solidaire parce que j'ai quand même l'impression du coup d'aider beaucoup de monde, que ce soit avec le podcast, en donnant une autre vision. Je reçois beaucoup de messages dans un sens de que ça leur fait du bien, quoi.
Oui.
Les formations, enfin, j'ai l'impression de participer à un monde meilleur, en tout cas, oui, avec ce que je fais. Ce qui, d'une manière un petit peu caricaturale, on pourrait se dire, ben, finalement, c'est ça l'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui sert un monde meilleur. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait dire que Fleur d'Avocat, c'est ou pas dans l'économie sociale et solidaire? Oui. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, oui, tout à fait. Ben, y a trois piliers de l'ESS, suite à la loi de l'ESS en 2014. Donc, le premier pilier, c'est de dire que tu recherches un but autre que le seul partage de bénéfices. Donc, c'est le cas. Je cherche vraiment à, pour moi, créer du lien social entre avocats. Mine de rien, quand j'ai écouté des podcasts, moi, j'ai été inspirée. Je me suis dit, tiens, il y a d'autres avocats un peu comme moi. J'ai envie de les contacter. J'ai envie d'écouter à ces podcasts pour aussi m'encourager moi-même. J'avoue que ça m'a beaucoup encouragée quand j'ai écouté à les podcasts. Il y a aussi cette idée de formation. Donc, un des définitions de l'utilité sociale dans l'ESS, c'est l'éducation, la citoyenneté. Donc, on peut dire que c'est l'éducation aussi à un monde meilleur, comment on peut exercer la profession d'avocat avec des valeurs aussi. Deuxième pilier, c'est la gouvernance démocratique. Donc, si, par exemple, tu as une société, je ne sais pas quelle est la structure juridique.
Moi, c'est une SASU.
Voilà. Donc, tu peux dire que je vais créer un comité consultative ou un comité de l'ESS qui permet d'avoir d'autres parties prenantes qui puissent donner leur avis sur comment améliorer le Fleur d'Avocat, les podcasts ou la formation. Donc ça, c'est la gouvernance participative parce que c'est d'autres personnes qui contribuent. Donc c'est un peu la communauté. Et puis, troisième pilier, c'est une lucrativité limitée. C'est-à-dire, on ne peut pas distribuer plus de 50% des bénéfices à des actionnaires. Donc ça permet de garder la majorité des bénéfices pour promouvoir l'activité d'utilité sociale.
Mmh. Donc ça veut dire que... Et les actionnaires, ça inclut bien évidemment l'actionnaire...
Oui.
Ok. Donc ça veut dire qu'il y a 50% pour les actionnaires et 50% qui sont dans l'investissement dans la...
Oui.
Ok. Bah finalement, ça semble assez faisable.
Oui.
Hein.
La deuxième étape, enfin il y a deux étapes. La première étape, c'est trois piliers. Deuxième étape, c'est ce que j'appelle l'agrément ESUS. Et il y a deux conditions supplémentaires, c'est d'avoir une rémunération limitée à 10 fois le SMIC. Enfin, je résume, mais c'est maximum 10 fois le SMIC. Et aussi de ne pas échanger les titres aux bourses, donc on n'est pas coté en bourse. Donc finalement, je pense que... 10 fois
pour le
SMIC,
moment, j'y suis très très loin. Pour le moment, je me verse voilà, même pas un seul SMIC. Donc j'ai envie de te dire que...
180 000 euros, je pense que ça va.
J'ai beaucoup de marge de manœuvre.
Oui, mais c'est vrai que de plus en plus, même les B-Corp, je dirais, même les grandes entreprises, par exemple Danone, est en train de justement devenir une société à mission qui est un peu l'équivalent, enfin, j'ai envie de dire l'ESS équivalent pour les grands groupes, donc qui a été promulguée par la loi Pacte l'année dernière. Donc c'est une autre mention qui permet à des grands groupes, même à des petites structures, à avoir une autre label société à mission, entreprise à mission. Et donc, Danone veut être une société à mission. Pour être une société à mission, on doit ajouter une raison d'être et une mission, des objectifs sociaux et environnementaux, et aussi un comité de mission. Donc, ça ressemble un peu à l'ESS, mais il est un peu différent dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir une limitation de lucrativité.
Oui, parce que là, Danone...
mais
où ils auraient pu faire peut-être 30 fois le SMIC.
C'est ça, 50.
50 fois le SMIC.
Mais c'est vrai que... Ça, c'est de plus en plus connu et maintenant, il y a, enfin, je disais, une vingtaine d'entreprises déjà depuis 3-4 mois qui veulent devenir une société à mission. Des grands groupes, B-Corp, on a déjà une centaine, avant on était une vingtaine. Donc, je vois un mouvement, je vois un mouvement vers les entreprises plus responsables qui veulent soit avoir une activité responsable, donc c'est d'ailleurs comme les entreprises de l'ESS avec une activité justement de lien, créer de liens sociaux, l'éducation de la citoyenneté ou aider des personnes en situation de fragilité ou les sociétés comme les sociétés à mission comme Danone, comme Maïf, comme Camif qui aussi veut avoir une raison d'être, un objectif, un but à l'intérieur qui est responsable et qui est une manière de gérer l'entreprise de façon responsable. Donc je me réjouis parce qu'il y a 15 ans, je dis mais ça n'existe pas, je ne vois pas. Et là, on rentre pleinement dans cette cette nouvelle saison, je dirais, de comment se comporter en tant qu'entreprise et l'économie de demain, qui, pour moi, ne va pas être basée sur la maximisation des profits des actionnaires, comme les cabinets d'avocats classiques ou comme les grands CAC 40, mais on va avoir une nouvelle manière de plus responsable. Et cette manière, pour moi, c'est l'économie de demain. Et mon cabinet, j'ai envie de dire, est déjà dans l'économie de demain et on a des valeurs de l'économie de demain. J'ai envie de dire, peut-être plus tard, du coup, je vais arriver sur le marché un peu plus tôt que les autres. Mais j'espère qu'il y aura d'autres avocats qui vont me suivre, qui vont aussi faire partie de ce réseau Impact Lawyers. Les jeunes aussi, j'ai envie de vraiment créer une communauté des avocats responsables qui cherchent du sens. Parce que je trouve qu'ensemble, on peut aller plus loin. Et justement, je pense qu'il faut réinventer le métier d'avocat et réfléchir à créer sa voix si ça n'existe pas, comme moi je l'ai fait. Je pense que c'est complètement possible de le faire. Si une Américaine à Paris, une femme, je dirais, Américaine à Paris, peut créer son cabinet d'avocat dans un métier d'avocat qui n'a pas du tout d'argent ou un secteur qui n'a pas d'argent, je pense que tout est possible. J'ai envie de dire, tout est possible. Il faut juste croire en soi-même.
C'est tellement incroyable que ce soit... je veux dire, heureusement, il y a eu plein d'autres invités sur le podcast qui ont tenu un discours qui va dans ce sens-là, de tout est possible, il faut y croire et il faut s'accrocher et on peut créer un exercice à son image. Mais c'est une caricature qui me fait sourire qu'une Américaine qui existe en France vienne dire « Everything is possible oui. !»
C'est American in Paris.
C'est
Audrey Hepburn.
C'est drôle. Et qu'est-ce que j'allais te dire ? Tu disais que toi, ton cabinet était vraiment dans cette économie et que tu t'étais... Est-ce que, par exemple, tu as créé pour ton cabinet une sorte de structuration qui puisse ressembler à la structuration qui est celle, du coup, de tes clients, avec un board consultatif oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait ?
Oui, alors avec le réseau Impact Lawyers, on avait créé une gouvernance démocratique, participative. On avait souvent cette idée d'attirer des clients pour, et des incubateurs pour avoir leur avis. Maintenant, dans le cabinet, on est deux. Donc, du coup, j'ai pas encore pris l'initiative de créer justement la structure juridique pour pouvoir rentrer pleinement dans l'OSS, mais j'ai prévu de faire l'année dernière et je suis tombée enceinte.
Et donc c'est possible pour un cabinet d'avocat d'avoir une structure d'économie sociale et solidaire ?
J'ai envie de dire oui.
Okay.
J'ai envie de dire oui et j'ai envie d'essayer.
Mais là, c'est de la doctrine.
C'est ça.
Ah, mais c'est intéressant. Et tu t'es renseignée auprès de l'ordre en termes de déontologie
Alors, je dirais que tant qu'il y a... Pour moi, c'est possible, oui. Parce que déjà, quand on prête serment, les valeurs du métier de la profession d'avocat, c'est la dignité, l'humanité, la probité, l'indépendance et la conscience, du coup... Ces valeurs, pour moi, sont aussi les valeurs de l'OSS et aussi d'utilité sociale. Donc, si on peut dire que mon cabinet recherche un but autre que le seul partage de bénéfices, je trouve que ça rentre pleinement dans la profession d'avocat, les valeurs. Maintenant, avec le comité consultatif, je crois aussi parce que c'est simplement un comité consultatif, donc on garde notre indépendance. Et avec la lucrativité limitée, oui, j'y crois. Parce qu'on n'a pas besoin de verser 100% des dividendes aux actionnaires. On peut aussi mettre cet argent au service de l'activité d'utilité sociale. Mais il faut juste créer et oser à le faire. Et je pense cette année ou l'année prochaine, je vais essayer. Je te tiens au courant.
Mais avec plaisir, ce sera intéressant. Et puis même, je pense que ça pourrait même intéresser les incubateurs des différents barreaux, l'ordre, le CNB, oui. d'avoir un exemple de comment est-ce qu'un cabinet s'est structuré. Pour répondre, pas juste en termes de valeur, mais en termes de structuration aux critères de l'économie sociale et solidaire. Oui. C'est quand même intéressant.
Oui, et surtout parce que la loi de 2014 a donné une définition qui est l'économie sociale et solidaire est une manière d'entreprendre et de développement économique adapté à toute la vie humaine. Et donc, j'ai envie de dire, y compris les cabinets d'avocats, les infirmières, les médecins, les restaurants.
Il n'y a pas de raison que les professions libérales soient exclues parce qu'elles sont libérales, oui.
Moi, j'ai envie de croire, en tout cas.
Ben, et je pense qu'on a tous envie de croire avec toi.
Oui.
Et tu disais, voilà, si moi, une Américaine à Paris, etc., j'ai réussi dans un milieu où il n'y a pas d'argent, bref, je voudrais revenir sur ce côté Américaine à Paris.
Oui.
Est-ce que tu... quelles ont été, si tu en as eu, les difficultés propres au fait de ne pas être française et d'exercer en France? Est-ce que tu en as eu déjà des difficultés liées à cet état de
oui,
fait?
Oui, tout à fait, parce que du coup, il y a, je trouve que une Américaine qui arrive à Paris en disant je vais exercer la profession d'avocat, il y a quand même un préjudice, peut-être une à franchir, qui est, bah, du coup, vous ne connaissez pas notre système de droit et vous n'êtes pas légitime d'exercer la profession d'avocat. Maintenant, il y a plein d'étudiants en France qui font leurs études aux États-Unis, qui exercent aux États-Unis. Donc, j'ai envie de dire que c'est possible, il faut juste étudier beaucoup, il faut faire des erreurs, apprendre de ses erreurs. Donc, je trouve qu'au début, même avec mes stages, j'avais commencé dans la traduction. C'était, je faisais pas grand-chose. Et puis, j'ai dû montrer que je suis capable de vraiment exercer le métier d'avocat, même avec une autre langue, avec l'écriture.
C'est marrant parce que dès que t'es, tu vois, transnationale, on se dit, ah bah, du coup, tu vas pouvoir faire de la traduction.
Oui.
Mais si tu peux traduire d'une langue à l'autre, ça veut aussi dire que tu peux comprendre les langues de telle manière à les utiliser en tant que telles et pas juste à les transposer.
Bref. Tout à fait. Et puis, surtout, c'est... j'ai envie de dire que c'est juste une question de méthodologie. Il faut comprendre les bases, il faut étudier, il faut faire de la recherche. Mais je trouve qu'en France, c'est même plus facile de comprendre les lois parce qu'ils sont dans les codes, parce qu'ils sont écrits, parce que voilà, il y a les doctrines, il y a les jurisprudences. Mais aux États-Unis, c'est encore plus difficile parce qu'il y a le case law, precedent qui change tout le temps. Il faut être à jour sur des différents arrêts. Des différents tribunaux, donc je sais pas, c'est pour moi, c'est, je pense que le barreau de Californie était même plus dur que le barreau de Paris. Je sais que j'ai passé un barreau qui est l'article 100, qui peut-être est plus facile qu'un barreau classique, mais j'ai réussi en tout cas à montrer aux associés dans les grands cabinets d'avocats que j'étais capable de travailler en droit français et en droit américain. Et donc, c'est vrai que c'était une épreuve, c'était pas facile.
Même en t'adressant au début de ta carrière au cabinet anglo-saxon, parce qu'au contraire, ils ont dû se dire que c'était du pain béni, quoi. Et ils ont dû te voir arriver en disant, mais c'est quand même fantastique, on a une Américaine, une avocate américaine qui vient et qui en plus est formée au droit français. Et donc, eux qui cherchent, tu vois, tout le temps des étudiants français qui ont fait des LLM à l'étranger aux États-Unis, tu vois, du coup.
Mon expérience est qu'en tant qu'Américain, Américaine, les Américains, ou je parle pour les Américains, quand on est en France, soit on travaille pour des cabinets anglo-saxons dans le droit américain, donc le droit, je sais pas, anticorruption, droit des security law. Mais on travaille sur le droit américain. Donc, on ne travaille pas sur le droit français. Ou soit, on travaille en tant que... Voilà, on commence nos carrières avec plutôt, je dirais, traduction paralégale, cross-border, donc les due diligence internationales, donc avec des documents en anglais. Là, c'est rare de trouver... Moi, j'ai pas trouvé beaucoup d'avocats qui sont vraiment formés en droit français, qui parlent français, qui, la plupart de leurs clients, sont les clients français. Je sais que ça existe, mais c'est vrai qu'ils nous mettent un peu dans les cases, parfois, en tant qu'Américains.
Oui. Et est-ce que tu as des clients américains?
Quelques-uns, mais pas beaucoup. Pas assez. Pas assez. Ouais. C'est vrai que c'est... Cette partie de moi où je voulais tellement montrer que je suis capable de, je suis tombée dans l'extrême de, je travaille que en droit français, en français. Et là, j'ai envie de revenir un peu à mes racines, encore une fois, pour dire que j'ai cette partie de moi qui est perdue, entre guillemets, un côté international où je peux avoir des clients internationaux. Et j'ai envie de aussi travailler aussi pour les clients aux États-Unis. Mais je, pour l'instant, je préfère choisir mes clients en fonction de leurs valeurs plutôt que leur nationalité.
C'est... Ouais. C'est tout ça ton honneur. Et par le barreau, je veux dire la famille du barreau parisien, est-ce que tu te sens accueillie?
Oui, oui, oui. Oui, oui. À part voilà, les professeurs qui me disaient que je ne devrais pas continuer mes études.
Ouais, mais ça, c'est des professeurs, c'est pas forcément bizarre. Ouais. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Oui. Et donc, tu disais que l'année dernière, tu as recruté une collaboratrice.
Oui.
Et que maintenant, vous êtes trois. Donc, tu as une associée.
Oui. Ou... J'ai un stagiaire.
Un stagiaire, une collaboratrice
et voilà, moi-même.
Et toi. Et donc, ta collaboratrice, elle est venue au bout de combien de temps d'exercice?
Donc, c'était en 2009, ça va faire 4 ans. Elle ?
Ouais.
Donc, elle a là 2 ans d'expérience.
Ouais. Ouais. Et donc, mais c'est ta deuxième collaboratrice ?
C'est la première collaboratrice pour moi.
Que tu as eue ? Ok. Oui. Donc, en fait, tu as exercé pendant 4 ans, oui, juste toute seule ?
Oui.
Ensuite, éventuellement avec un stagiaire. Oui. Et là, au bout de 4 ans, tu t'es dit, ok, maintenant je recrute.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est... Le réseau que j'ai créé avec d'autres avocats permet aussi d'avoir de l'aide. Par exemple, si on n'est pas sûr de pouvoir embaucher tout de suite parce qu'on ne sait pas si on aura... C'est assez cher d'avoir un collaborateur ou collaboratrice. De travailler en réseau permet justement de partager les dossiers, de partager les compétences, d'avoir un deuxième regard sur ce qu'on fait. Et cette manière collaborative de dire « Ok, on est tous ensemble pour aider les uns et les autres. » Et souvent, dans la profession d'avocat, on se sent seul. On se sent peut-être... on traverse un seul dossier avec peut-être un associé ou peut-être un stagiaire ou un collaboratrice ou collaborateur. Là, on est tous ensemble. On a tous nos cabinets d'avocats. Et on a envie de développer nos clientèles. Et donc, je pense que cette manière de fonctionner va être de plus en plus fréquente, de plus en plus populaire, parce que les cabinets d'avocats dans la structure elle-même n'est pas appropriée pour justement les jeunes générations qui veulent plutôt en une mode de collaboration plutôt horizontale. Avant, c'était plutôt vertical. Et donc, j'espère en tout cas, et j'ose dire que ce cabinet, enfin ce réseau d'avocats peut être un exemple pour d'autres qui peuvent faire un réseau pour justement ne pas se sentir seul, d'être entouré des personnes bienveillantes et aussi de partager des dossiers, qu'on a trop de dossiers. Par exemple, comme moi, je suis partie en congé maternité, j'ai pu déléguer mes dossiers à notre avocat. On peut aider aussi quand on a trop de dossiers ou pas assez. C'est vrai que je pense qu'il faut qu'on arrive à se rencontrer, à faire confiance à l'un et l'autre. Parce que
j'allais te poser la question de la confiance parce que je pense qu'il y a tellement d'avocats qui ont peur que du coup ce soit moins de business pour eux, tu vois, que le client reste avec son autre avec l'avocat vers qui on l'a envoyé parce que voilà, et donc finalement que ce soit pas ponctuel mais que ce soit une perte durable, tu vois. Et du coup j'allais te demander le sujet de la confiance, est-ce que toi c'est quelque chose qui t'a coûté de te dire ok en fait je vais sous-traiter ou je vais orienter mon client vers quelqu'un d'autre? D'ailleurs, est-ce que tu fonctionnes par sous-traitance ou est-ce que vraiment tu fonctionnes en disant ben voilà, votre dossier va être traité par Maître Machin, ou est-ce que Maître Machin intervient en sous-marin? Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Comment est-ce que tu fonctionnes? Quel type de...
Bah, au début, c'est juste ma manière de voir les choses. Au début, on a fonctionné un peu en sous-traitance. Mais après, je me suis rendu compte très vite que ça n'a pas de sens d'être en interface entre le client et l'avocat. Et donc, maintenant, on travaille en collaboration finalement, c'est-à-dire que chacun intervient sur le dossier. Donc si moi j'interviens sur un sujet, par exemple la création d'une société, l'autre avocat va intervenir sur la propriété intellectuelle. Si jamais moi je suis sous l'eau et j'ai besoin de l'aide sur le droit des sociétés, sur la création d'une société, je peux demander à un autre avocat qui va ensuite intervenir à ma place. mais toujours en me mettant en copie. Et c'est plus cohérent de travailler dans cette manière-là plutôt de dire que je vais travailler, voilà, la personne, enfin, l'avocat va me donner le travail qui a été effectué et je vais ensuite resoumettre au client. Je trouve déjà qu'il y a un manque de transparence, il y a aussi une perte d'efficacité.
Et selon ton expérience, les clients, ils restent?
Oui, surtout parce que j'ai trouvé des bonnes personnes. Il y avait un avocat qui finalement, le client est parti avec cet avocat. Mais ça m'a appris aussi à me dire qu'il faut vraiment trouver des bonnes personnes. Il faut d'abord construire la relation avec la personne, d'abord être sûr que la personne va, même si le client dit non, je veux partir avec toi, la personne va refuser en disant non. Parce qu'on a eu un accord entre nous, on a eu un accord de bienveillance. Et puis, c'est des personnes, enfin, j'ai envie de dire, comme les avocats sur Fleur d'avocat, c'est des gens qui vraiment sont dans la bienveillance. Et même une autre avocat que j'ai rencontrée récemment, je lui ai donné du travail. Et puis ensuite, mon client l'a contacté directement et puis elle a envoyer le client vers moi en me disant « si elle est d'accord, je le fais, mais sinon, je ne veux pas ». Et c'est ces valeurs-là que je trouve qui font partie de l'OSS, mais aussi qui doivent faire partie des nouveaux cabinets d'avocats. C'est-à-dire, on ne va pas dire que chercher l'argent à tout prix, même si ça peut coûter au niveau des relations, c'est ce qu'il faut faire. Je trouve qu'il vaut mieux avoir une priorité sur nos relations, sur les valeurs, sur qui nous sommes, sur la bienveillance, sur l'entraide. Et je trouve que c'est là où on va pouvoir attirer plus de clients. Parce que quand on est ensemble, du coup, les clients, ils viennent vers nous parce qu'ils n'ont pas besoin de chercher 10 avocats, un avocat en droit pays, en droit social, en droit des sociétés. Ils ont tous un clé en main. Et en même temps, si on peut avoir de la confiance, et pour créer de la confiance, que ce soit simplement même des règles à respecter, et tout le monde est d'accord, je trouve que c'est là le prochain cabinet, enfin le cabinet de l'économie de demain, j'ai envie de dire. Et ça peut même rapporter plus d'argent qu'un cabinet qui cherche à tout prix à maximiser leur profit.
Oui, c'est sur ce sujet-là, vraiment, de la construction d'un réseau. Et je conseille toujours l'interview de Mathieu Davy de Oria Media, qui a un cabinet en propriété intellectuelle, droit du cinéma, droit de l'audiovisuel, tout ce secteur-là. Et il travaille énormément en réseau aussi, parfois en sous-traitance, mais aussi pas mal en... Et il dit, moi, je crois beaucoup aux cabinets de niche, mais qui travaillent de manière complémentaire avec un réseau. Donc voilà, c'est aussi une interview intéressante sur cette réflexion. Et toi, comment est-ce que tu sélectionnes justement tes partenaires?
C'est surtout avec mon intuition. C'est déjà de créer une relation, d'avoir déjà une personne qui est recommandée. Donc, de quelqu'un qui a déjà une expérience dans l'OSS ou qui a envie d'avoir une expérience dans l'OSS ou même avec des avocats qui cherchent des valeurs ou des sociétés à mission, enfin, en tout cas, qui cherchent du sens dans la profession d'avocat. Et ensuite, c'est un fit ou pas au niveau de la personnalité, au niveau de la personne. Et puis aussi au niveau de la qualité du travail. Je pense qu'il y a à la fois la qualité du travail qui est aussi importante que la relation qu'on peut créer ensemble. Et puis c'est au fur et à mesure où on travaille ensemble, je vois comment ça marche. Est-ce qu'on arrive à vraiment mettre l'intérêt de l'autre devant nos propres intérêts? Est-ce qu'on arrive à être transparent? Est-ce qu'il arrive à vraiment... exercer les valeurs, entre guillemets.
Ouais. Et tout ça, donc, est-ce que ce réseau, il a vocation à continuer à grandir ou est-ce que tu estimes que là, il a atteint une taille qui te satisfait et qui fait qu'il répond à sa raison d'être et tu veux pas qu'il grandisse plus. Est-ce que des auditeurs qui nous écoutent peuvent se dire « Ah bah tiens, j'aimerais bien partir de faire ce réseau, j'ai envie de faire partie de ce réseau » ou est-ce que là, tu t'es dit « Ben non, on veut plus grossir ». Enfin, quelle est ta dynamique par rapport à ce réseau ?
Mon dynamique, c'est on veut attirer le maximum d'avocats ou même des juristes. On a un notaire aussi. Je veux créer vraiment un mouvement.
Un mouvement des métiers juridiques, des professions juridiques autour de l'économie sociale et solidaire.
Vraiment, on n'est pas du tout limité. Au contraire, je trouve que c'est ça même pour les jeunes avocats, même les étudiants, je trouve qu'ils ont besoin aussi de notre aide. Je ne veux pas être prétentieuse, mais je pense qu'eux, ils ont besoin d'avoir ce boussole intérieur. Ils ont besoin d'avoir des avocats qui leur disent « tu peux y arriver, tu peux le faire, il faut y croire ». Et on n'a pas assez de mentorat, on n'a pas assez des « pères et mères », entre guillemets, des jeunes avocats qui veulent exercer la profession d'avocat, mais finalement ont peur ou qui n'ont pas confiance. Et donc j'ai envie de créer comme une famille, comme une famille bienveillante qui dans laquelle on peut grandir ensemble, tout simplement, aider les autres, aider les plus jeunes, s'entraider, et puis aussi avoir un côté militant pour changer le métier d'avocat, changer les cabinets d'avocat pour que l'OSS puisse un peu infiltrer dans ce système, et même, pourquoi pas, éventuellement proposer des lois pour que le secteur de l'OSS grandisse, pour que les entreprises à impact puissent vraiment prendre leur place.
Tu fais du lobbying, toi, un petit peu ?
Alors, j'en ai fait un tout petit peu avec notamment la loi Pacte et la loi de l'OSS. J'aimerais bien en faire plus, mais c'est vrai que je pense que le mot lobbying, c'est même un mot anglo...
Des affaires publiques, je sais pas, de l'influence.
Ouais, mais je dis, c'est ça vient de enfin, je vais dire, les racines un peu anglo-saxonnes, c'est pour dire que j'aimerais bien le faire, mais je trouve que quand j'en parle, c'est comme si c'est un gros mot. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
Mais c'est vrai qu'en France, en tout cas, on associe beaucoup les lobbies aux lobbies du mal.
Oui.
Tu vois, les lobbies de l'industrie pétrochimique, les lobbies de l'agroalimentaire sale, tu vois, ça.
Oui.
Bon, je mets plein de jugements de valeur dans ce que je dis, mais ce n'est pas grave. Et on oublie qu'il y a aussi des lobbies pour des causes qui peuvent être perçues comme étant plus propres ou plus porteuses, vertueuses, tu vois.
Oui.
Je sais pas, moi, il y a des lobbies de la cause animale, il y a des lobbies de... Et donc, maintenant, j'utilise ce mot de manière neutre quand je m'adresse à quelqu'un en lui demandant s'il veut faire du lobbying. Mais je te rejoins sur le fait que c'est pas toujours bien vu.
Oui, ouais. J'aurais bien aimé. Je pense qu'on a besoin, justement, des lobbying, des groupes de lobbying dans ce sens-là pour promouvoir les valeurs aussi... au niveau des lois, les règlements, et je serais ravie vraiment de le faire si peut-être on peut transformer cette collectif dans... je ne sais pas, moi, je ne veux pas être figée sur l'avenir de ce collectif, mais plus qu'on est ensemble, plus qu'on peut réfléchir et avoir un vrai impact. Et j'ai envie d'avoir un vrai impact un peu. Ma raison d'être, je pense que c'est ça, c'est d'avoir un vrai impact dans ce monde via la profession d'avocat, via les ONG, via les clients qui, eux, ils ont un impact aussi positif. Et si je meurs demain, j'ai créé le plus d'impact, je me suis donné à fond pour avoir créé ce secteur d'impact, déjà, je me sentirais heureuse et épanouie dans ce que je fais aussi. Parce que ça a du sens aussi de créer ces valeurs-là.
Et tu disais tout à l'heure que tu es tombée enceinte il n'y a pas longtemps et
oui.
Que pendant ton congé maternité, tu as renvoyé les dossiers vers un confrère. Comment tu le vis, ça, d'être une chef d'entreprise, une avocate à ton compte, avec ton cabinet qui tourne? Et comment est-ce que tu as mis en pause tes dossiers? Est-ce que tu as continué à travailler un petit peu ou est-ce que tu as tout délégué? Comment s'est passé ton congé maternité?
Oui, alors j'en ai eu deux assez rapprochés. Donc j'ai eu mon fils en 2018 et ma fille il y a 3 mois. Donc Donc c'est vrai, en 2018, j'ai dû déléguer beaucoup de dossiers, mais j'étais toujours très impliquée. Je n'arrivais pas à me décrocher. J'étais toujours, même la veille avant mon accouchement, j'étais en train d'envoyer des emails. Et j'ai intervenu dans une grande conférence 2 mois après l'accouchement. Cette année, j'ai Claire, ma collaboratrice, qui a vraiment pris sur elle de prendre les dossiers en main. Elle a fait un travail extraordinaire de gérer des dossiers, d'être là quand j'avais vraiment besoin d'elle. Donc, c'était un soulagement. J'ai pu vraiment prendre du temps pour moi avec mon bébé. Mais je ne sais pas s'il y a des mamans dans les auditeurs.
Je t'assure qu'il y en a.
J'ai envie de dire bravo. Parce que déjà, en tant qu'avocat, c'est compliqué. Mais en tant que maman avocat, c'est déjà très, très compliqué. Là, je me rends compte, avec 2 enfants en bas âge, j'ai envie d'être là pour eux. Je les aime tellement et j'aime ce que je fais. Et j'ai envie de trouver un équilibre entre être là pour mes enfants et être là aussi pour cette vocation, pour mon cabinet d'avocat. Et c'est pas facile. Et au début, j'ai échoué. Je voulais être une mère parfaite. Et je voulais être un avocate parfaite, un employeur parfaite. Et je ne pouvais pas. Et donc, j'ai dû renoncer à la parfaite. Et maintenant, j'arrive, c'est depuis peu, depuis quelques semaines, j'arrive à dire, c'est suffisant. Qui je suis, c'est suffisant. Ce que j'apporte à mes enfants, c'est suffisant. Ce que j'apporte à mes clients et aussi en tant qu'employeur, c'est suffisant. Et déjà, je dois juste... être content avec qui je suis et j'ai fait mon meilleur et c'est tout.
Et alors, sur quoi est-ce que tu as coupé ? C'était quoi les excès de perfectionnisme sur lesquels tu as choisi de dire « Ok, là je lâche »
Le repas. J'ai dit c'est pas grave si je ne fais pas un repas tous les soirs si j'achète des plats tout faits de temps en temps. C'était aussi de dire que je vais refuser des clients. Et ça, c'était dur pour moi de dire « Ok, mais j'ai envie d'être là pour mes enfants, donc je vais refuser un peu des clients. » C'était aussi de dire que je peux regarder les maisons qui sont tout propres. Voilà, je ne vais pas ranger tous les soirs les jouets, donc parfois je laisse les jouets traîner. Parfois, je choisis d'être avec mon enfant plutôt de dormir un peu. Peut-être au lieu de prendre une sieste, je vais être avec ma fille pour faire des petits bisous. Et je pense que déjà, si j'arrive à trouver un équilibre entre ne pas mettre la pression sur moi en disant « Ok, c'est pas grave. Si c'est pas exactement comme... Moi, j'avais imaginé en tant que mère, l'image que j'ai de moi-même en tant que mère, c'est pas du tout qui je suis maintenant. Mais j'ai envie de dire, tant mieux, parce que c'est un idéal. Je pense que les mères ont envie, envie d'être perfectionnistes, surtout les avocats qui sont déjà perfectionnistes. Donc, déjà, si on peut avoir un peu de la compassion sur soi en disant, ok, ce que tu fais, c'est suffisant, bravo. Et mon mari, pour la fête des mères, m'a acheté une couronne. je dis, j'ai juste à la fin de la journée, j'ai envie d'avoir une couronne en disant bravo, t'as réussi à finir la journée. Même ici, il y avait des pleurs, même si parfois c'était compliqué. Bon, on est arrivés, on est tous en vie, on est heureux, c'est l'essentiel.
C'est marrant parce que dans la formation sur la confiance en soi de Fleur d'Avocat, donc qui est principalement suivi par des femmes, mais les hommes sont aussi les bienvenus. Et j'ai eu un homme jusqu'à maintenant,
ah oui.
Et ça s'est très bien passé pour lui. Et on a notamment un exercice sur les réussites et le fait d'être capable de voir ce qu'on réussit et de se dire qu'on réussit des choses. Et en fait, souvent, c'est un exercice où les clients disent « mais je réussis rien, je vois pas de réussite dans mon parcours et tout ». Donc voilà, il y avait tout un travail autour de ça et puis comme il y avait notamment une maman dans la première promotion, on lui avait dit « mais tu te rends compte que quand même t'es avocate et maman ». Oui. Et puis en plus elle avait 9 ans d'expérience, donc pas mal de responsabilités, etc. T'es avocate et t'es maman, et donc rien que ça, enfin je veux dire, il faut pas il n'y a pas besoin d'être avocate et maman pour réussir. Vous pouvez avoir plein d'autres réussites sans ça. Mais c'est quand même un énorme accomplissement parce que c'est, oui. Enfin, voilà, c'est un métier qui demande beaucoup d'exigences. Oui. Et de faire ça tout en s'occupant de ses enfants, enfin,
bravo.
C'est pas facile, quoi. Bravo.
Cette maman, bravo. Pour toutes les mamans, franchement, bravo pour qui vous êtes, pour ce que vous faites. Vous êtes vraiment merveilleuse. Et des pères aussi. Des pères, vous êtes géniaux aussi. Vous vraiment vous soutenir. Voilà. Je pense que même mon mari, il a pris une journée par semaine pour être avec mon fils. Donc, il a pris un congé paternité, je crois. Donc, c'est vrai que les hommes aussi,
heureusement.
Ils prennent du temps avec leurs enfants. Et c'est pas facile non plus. Lui aussi, il avait des remarques, des collègues qui disent « Mais pourquoi vous faites ça ?» J'ai envie d'être avec mes enfants. C'est normal.
Et Alissa, quels sont tes projets pour les années à venir comme avocate ? Ou comme personne d'ailleurs, pas que comme avocate.
Alors pour les années à venir, je dirais trouver un équilibre entre la vie professionnelle et privée maintenant. Parce que voilà, je dois gérer les enfants aussi. Continuer dans cette recherche de boussole intérieure, cette recherche d'épanouissement et de joie. Et d'ailleurs, ma fille s'appelle Joy, donc joie. Et puis aussi de maximiser mon impact. Et encore une fois, c'est via ce réseau, via les projets du cabinet. J'ai envie de créer, d'avoir un vrai impact aussi, créer ce nouveau type d'entreprise qui a du sens, qui cherche des valeurs, qui va créer l'économie de demain. Je pense que cette crise sanitaire, c'était une vraie, je dirais, lumière au point, aux choses qui ne se passent pas très bien, aux choses qui ne vont pas. Et je pense que ce n'est pas la première crise. Je pense qu'il y aura d'autres crises à l'avenir et même la prochaine génération, je pense qu'elle aura vraiment des défis à surmonter. Et j'ai envie d'être au service des jeunes, de cette génération qui doit se lever pour combattre ces crises, même crise sanitaire, le changement climatique, tous ces enjeux. Là, j'ai vraiment envie d'accompagner ces jeunes pour les former, pour leur apprendre à s'adapter. Parce qu'on peut apprendre par cœur le code civil, mais ça ne va pas forcément aider quand, justement, on a des crises qui sont imprévues. Donc, je pense que pour former un avocat de demain, il faut former les avocats dans comment s'adapter. Comment on peut faire pour s'adapter? Comment on peut faire pour être en transition, transformer? Ma génération, je dirais, c'est plutôt une génération qui a détruit des murs, a créé l'Internet, a détruit les murs géographiques. Enfin, il y a plein de destructions, et même par rapport aux droits aussi pour... les LGBT, et maintenant c'est la prochaine génération à construire, à reconstruire. Mais sur quelle base? Est-ce qu'on veut construire sur une base d'une économie qui recherche à tout prix de maximiser le profit? Est-ce qu'on veut proposer une autre manière de faire l'économie qui est peut-être plus bienveillant, plus cohérent, avec plus d'impact positif? Et donc je suis très attirée par cette transition vers cette nouvelle économie. Et je ne sais pas comment je vais pouvoir mettre mon pied dans pour aider cette nouvelle génération, mais en tout cas, j'ai plein d'idées.
Formidable. Et quelle est ta dernière joie?
La dernière joie? D'aujourd'hui, de voir ma fille quand elle sourit, elle m'apporte tellement de joie. C'est incroyable, à faire des sourires à 2 mois. Elle a commencé à faire des sourires à 2 mois et quand elle sourit, je me souris et en fait, j'oublie tout. C'est comme si tout s'arrête et je dis en fait, c'est tellement simple. On a juste besoin de sourire de temps en temps et on vit et de vivre. Tout simplement, pas réfléchir trop sur l'avenir ni sur le passé, mais simplement profiter du présent et ce que j'essaie de faire tous les jours.
Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe ?
Déjà, je ne porte pas de robe, je fais des conseils. Je pense que maintenant, je porte un soutien-gorge qui permet de faire de l'allaitement à tout moment et en tout temps.
Ça, c'est une réponse qui n'a pas encore été donnée. Merci beaucoup, Alissa.
Merci beaucoup, Lina.